a fallu des millénaires au dîner de Platon. Éteignez les lumières, je suis la corruption. Je suis la corruption.
Et sur la chanson de Bernard Lavilliers, la corruption, ça s'imposait par rapport à ce dont on a parlé. Eh bien, il me reste à vous dire au revoir, une très très bonne semaine. Il y a plein de manifs un peu partout. Et surtout, bien sûr, comme d'habitude, tenez bon.
Vous écoutez la voix sans Dieu ni maître.
Radio Libertaria, onde non aginta 4 MHz.
Radio Libertaire 89.4.
Olé, olé, whisky, cartoula, mauditori, semere.
N'oublie pas d'acheter ta carte d'auditeur.
Ut nos pecunias sustineas.
Pour nous aider financièrement.
Hae cartula centum francis consta.
Cette carte coûte
17 ducats.
Quam emere potes in libraria libertari mundi taberna.
Tu peux l'acheter à la librairie du monde libertaire.
In domo quintesima quadragesima quinta via Amelot.
Au 145 rue Amelot.
Quacum cartula minoris solues proquibus dam spectaculis.
Avec cette carte, tu paieras moins cher certains spectacles.
Alisque rebus attractivis.
Et autres attractions.
Radio Libertaria, sediosissima ex omnibus.
Radio Libertaire, la plus rebelle des radios.
Et moi, Bob, je passe mes vacances en Italie auprès du Vésuve. Ils ont installé un hammam qui fonctionne uniquement lorsque le Vésuve est en éruption, chauffé par la lave qui s'écoule. Et c'est un hammam uniquement réservé aux femmes. Je vais aller me rincer l'œil. Je vais aller mater la belle Eva, la mama ventripotente.
Hé, dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que ce hammam est réservé aux femmes? Allez, Bob, dors, Bob, dors!
Bob, qui cherchait à s'introduire dans ce hammam, s'est fait virer avec fracas! Eva, la mama, hua Bob au hammam à lave. Eva, la mama, hua Bob au hammam à lave.
Et voilà, comme à l'accoutumée, un palindrome de Gérard Durand pour ouvrir ce magazine sur Radio Libertaire. Et comme à l'accoutumée aussi, quelques petits « je me souviens » en vrac. Je me souviens que dans chaque quartier où j'ai habité, il y avait toujours, toujours deux jumelles d'une soixantaine d'années, copies conformes l'une de l'autre, vivant sous le même toit, avec apparemment les mêmes vêtements, la même coupe de cheveux, les mêmes habitudes, les mêmes tics. Et pourtant, dans chaque quartier, c'était un duo différent. Je me souviens que celui qui a 9000 euros et en gagne 1000 est plus heureux que celui qui a 9 millions d'euros et en gagne 1 million. Je me souviens de la tour d'argent du Grand Véfour, de Guy Savoy, d'Alain Ducasse, du Bristol, et pourtant je n'y ai jamais mis les pieds. Je me souviens que la vieille Georgette, la voisine de chambre de ma mère à l'EHPAD, la vieille Georgette se promenait partout dans les couloirs, avec le numéro de télé 7 jours, indiquant avec fierté « tu vois, lui c'est mon fils », en montrant le chanteur tout sourire sur la couverture. Le temps de la visite, de ma visite, elle me le montra 5 fois. « Tu vois, ça c'est mon fils ». Et elle le montra même à son propre fils passé la voir, un agriculteur au regard triste et désespéré. Je me souviens de « Elle a le cœur aussi chiffonné qu'une chaussette dans le bac à linge sale ». Jackie avait quand même le sens de la formule. Je me souviens de « Kindimo ne consent pas », écrit en lettres format A4, lettre à lettre, sur un mur aveugle de la rue de la Villette. Je me souviens du scandale de l'Arche de Zoé et des faux orphelins du Tchad, rapatriés ou dépatriés de force en France. Je me souviens de apophthegme, amphigourie, amphitryon, ductilité, factotum, impéritie, histrion, héliotrope, escogriffe, ourie, impavidité, alors même que je n'ai utilisé aucun de ces mots depuis 15 jours. Ah, jocris, amberlificoté. Je me souviens que Martine se qualifiait elle-même de femme botero quand elle traînait sur des sites de rencontres, des sites en 36-14. Elle n'allait quand même pas aller sur des 36-15, car là, les hommes voulaient vite avoir un numéro de téléphone et un rendez-vous, car ils voyaient la pompe à fric tourner. Parfois d'ailleurs, Martine quittait Botero pour Rubens. Je me souviens de la barbiche et des pulls en tricot de Jean Pelé, qui tenait le théâtre de la Ménate Rubichat, près de l'hôpital Saint-Louis, comme son nom ne l'indique pas, avec le café chantant et le perchoir. Je ne me souviens pas d'avoir croisé Pascale Mercier, cofondatrice du lieu. Je me souviens qu'à chaque cerise mangée, Gilles recrachait le noyau à grande distance en faisant croire aux enfants du centre aéré que c'était en faisant tourner ses oreilles qu'il conférait au noyau une grande vitesse.
Une fourmi sur une pierre, mais où va-t-elle? Que fait-elle? Quel mystère! Une fontaine ou un grand lion crache de l'eau, ça fait peur et c'est bon. Des feuilles mortes, ça c'est sympa. On va pouvoir se jeter dans le tas, courir partout, tomber souvent. Aimer la boue, mettre la main dedans, le long des parterres, quel bonheur! On joue aussi à embrasser les fleurs, un baiser pour le camélia, un baiser pour la fleur de l'hortensia. Tout est surprise, tout est beauté, tout justifie d'aimer, de s'étonner. Et c'est reparti pour un tour dans les allées du square de Clignancourt. C'est fou ce qui se passe, c'est fou vraiment, dans le regard d'un tout petit enfant. Un tout petit de 18 mois qui voit bien mieux que les grands que voilà. Un tout petit de 18 mois qui voit bien mieux que les grands que voilà. Y a plus un chat dans le petit kiosque. Une grosse averse a fait fuir tous les gosses. Nous y voilà, mon petit bout c'est gagné. On a le kiosque pour nous, tu cours après les bulles et les papillons et les libellules. Bulle douceur, bulle cocon qui éclate comme ton rire de savon. Au grand jeu du brumisateur, on appuie, on s'asperge, on se fait peur. Une fouine fait son apparition et hop, elle attire ton attention. Tout est surprise, tout est beauté, tout justifie d'aimer et de s'étonner. Et c'est reparti pour un tour dans les allées du square de Clignancourt. C'est fou ce qui se passe, c'est fou vraiment dans le regard d'un tout petit enfant. Un tout petit de 18 mois qui voit bien mieux que les grands que voilà. Un tout petit de 18 mois qui voit bien mieux que les grands que voilà. Les grands, ça fait de drôles de choses. Ça parle, ça pleure, ça n'embrasse pas les roses. Ça se bouscule, ça fait la tête. Et parfois même, ça n'est pas très honnête, les grands. Souvent, ça baisse les yeux, ça broie du noir. Ça devient malheureux, ça a le cœur gris, le cœur gros. Ça ne voit plus ce qu'il y a de beau, les grands. Ça oublie de regarder, ça oublie de s'aimer, de s'émerveiller. Faudrait leur rappeler un bon coup qu'un jour ils ont aimé même la boue. Que tout est surprise et beauté, que tout pourra un jour nous étonner. Et qu'il y aura toujours de l'amour dans les allées du square de Clignancourt. Amis fidèles, amour sublime, pas égaré, jour volé, nuit de Chine, folle passion, grands océans, rire cascade et odeur de printemps, moustache de chat, mitaine douce, jour de paresse où l'on tourne ses pouces, soleil caché par les feuillages, y a tant de beauté que j'en perds mon âge, passe les fourmis et le temps, passe les jours et passe les enfants. Mon tout petit de 18 mois, t'as bien raison d'aimer ce que tu vois. Mon tout petit de 18 mois, t'as bien raison d'aimer ce que tu vois.
Le square de Clignancourt, une chanson d'Alice Avens. Alice Avens qui sera notre invitée dans ce magazine la semaine prochaine pour un spectacle qui aura lieu à Créteil, organisé par La Cigale au conservatoire Marcel Dadi le 13 octobre. Mais faisons un saut dans le futur ou dans le passé, je ne sais plus, de zéro seconde pour voir qui est notre invitée d'aujourd'hui. Moa, je te laisse faire les présentations.
Bon, ben écoutez, bonjour, auditeurs, auditrices, voilà, Radio Libertaire. Bon, ben pour ne pas changer de tradition, donc, tradition oblige. Voilà, voilà, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai comme invité notre ami Alfred Moutapan. Moutapan, M-O-U-T-A-P-A-M. Moutapan. Voilà. Et qui est poète, donc, qui a été édité par Tam Tamar. Et son livre s'intitule Poésie du monde qui vient. Voilà. Donc ce sont des poèmes chantés. Poème pleuré par Alain Alfred Moutapan. Donc je te laisse te présenter. Bonjour.
Bonjour, très content d'être là. Je suis Alain Alfred Moutapan, poète écrivain, mais aussi chercheur sur les questions de diplomatie culturelle africaine et enseignant à l'éducation nationale. Voilà.
Très bien.
Ce que je puis dire de moi en quelques mots.
D'accord. Et alors, cette histoire de poésie du monde qui vient, pourquoi le monde qui vient, alors que le monde est là, quand même?
Oui, il s'agit du monde qui vient en rapport avec le monde passé. Le monde passé, enfin, je parle de mon monde à moi, le monde d'un autre, le monde des Africains, qui est un monde qui a connu beaucoup de turbulences. Et nous sommes à une époque où nous pensons qu'il y a des signes, n'est-ce pas, d'un meilleur monde. Et nous nous battons pour que le monde qui vient soit effectivement meilleur. Donc cette poésie-là est une contribution justement à ce monde-là qui vient. Parce qu'elle apporte, n'est-ce pas, un certain regard sur le passé. Elle illumine, n'est-ce pas, le passé, l'histoire, notre histoire. Par exemple, nous savons que l'Afrique est le seul continent dont l'histoire n'a pas été écrite par les Africains, mais par les autres. Et il y a une très grande falsification de cette histoire. Et dans cette poésie, donc, il y a une poésie assez thématique, pour ne pas dire thématisée, n'est-ce pas, nous revenons sur plusieurs pans, n'est-ce pas, de notre histoire, nous apportons des lumières là-dessus. Elle permet donc d'annoncer ce monde-là qui vient,
d'accord,
qui est un monde plein d'espérance, un monde de vivre ensemble, un monde, n'est-ce pas, où qui, comme, enfin, dans lequel, j'espère, il y aura moins de discrimination et presque plus de racialisation.
Donc, il faut s'armer d'un grand optimisme.
Absolument.
Pour ce monde qui vient.
Nous sommes des poètes. Les poètes sont des hommes extrêmement optimistes. C'est pour la raison pour laquelle, ce qui font d'ailleurs notre existence, parce que nous sommes ceux qui apportent l'équilibre au monde et du monde.
D'accord, d'accord. Et donc, tu as toujours écrit en langue française ou en langue maternelle?
Oui, j'écris en langue française parce que je suis un produit d'une double culture, la culture camerounaise et africaine, mais aussi la culture occidentale et précisément française, à laquelle, n'est-ce pas, j'ai été initié dès mon jeune âge. Mais pour que notre culture ne se meure point, j'essaye quand même de dire des choses, de faire ma poésie également en langue camerounaise, en langue bakoko. Donc ma poésie est aussi en bakoko. Mais cette fois-là, très souvent, elle est plutôt chantée, pleurée. Raison pour laquelle j'ai dit, enfin, raison pour laquelle, n'est-ce pas, dans les titres de mon recueil, on voit bien poésie pleurée, poésie chantée, n'est-ce pas, qui est la marque caractéristique de notre poésie à nous. Il faut dire que la poésie africaine ne peut être la poésie française, elle ne peut être la poésie chinoise, elle ne peut être la poésie indienne ou d'autres. Elle est une poésie singulière et très souvent, elle est chantée, elle est pleurée, telle que nos pères l'ont fait.
On va peut-être écouter un extrait.
Un extrait, peut-être, c'est mieux peut-être que je chante moi-même, hein, pour un extrait. Après, il pourra... parce que celle-là, c'est plutôt la poésie assez occidentalisée, l'extrait du CD.
D'accord.
Ma poésie, elle est... je vais chanter un petit extrait. En bakoko, ma langue maternelle.
C'est parti.
Maminga ibe yom ya bondo ya mao. Naminga ibe yom ya bondo ya mao. Naminga ibe yom ya bondo ya mao. Alolo mao. Maminga ibe ma yom ya bondo ya mae. Maminga ibe yom ya bong mutab namo. Maminga ibe yom ya bong mutab namapon. Maminga ibe yom ya bong mutab namo. Alolo mao. Maminga ibe ma yom ya bong mutab namo. Ouais. Allô mae, masome wae. Allô mae, masome wa ma pom. Allô mae, wam vek ma, wam bongo ma, wam tatma. Masome wae, ayuma mi se myonga bongli ma mama. Mama yine tomi leve, ole la mae. Mama yinet oma teve, ole la mapon. Mama yinet oma ku, ote ye maye. Mama yinet o benene ye, ole la maye. Mama yinet o ye ya bong ma, ole la maye. Alolume o, mama yinet o ye ya bong ma, ole la maye. Wo wo. Alolume, alolume, masume wae. Alolume, alolume, masume wae. Ma soif d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif de vivre. Ma soif d'amour n'a de comparable que toutes mes privations et toutes mes déceptions d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que les plaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père, longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Ma soif d'amour est à la mesure du souvenir de ces hommes et femmes auxquels on a pu attacher son cœur et que la nature un jour, brusquement, a retiré de la terre. Ma soif d'amour est l'appel d'un condamné, manifestement innocent, dans une prison indécente, isolée du monde, oublié des siens, en proie à son terrible, terrible, oh terrible destin. Ma soif d'amour n'a de comparable que la soif de vie des malades accablés par une maladie tenace, rongée par des souffrances atroces. Et conscient que de la vie sur terre, il n'y a plus rien, mais alors, rien à attendre. Ma soif d'amour est un cri ardent, un cri strident, un cri poignant d'une peine si dense. Ma soif d'amour n'est comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer, en dépit de mes égoïsmes hérités. Je voudrais pouvoir aimer, malgré toutes mes souffrances en amour rencontrées. Je voudrais pouvoir aimer, même ceux qui ne m'ont jamais aimé. Je voudrais pouvoir dire à temps, à vous toutes et tous que j'aime, que mon amour pour vous est au-delà de toute expression. Mon amour pour vous n'est pas la conjugaison de mes frustrations endurées. Mon amour pour vous n'est pas l'étalage de mes hypocrisies refoulées. Mon amour pour vous n'est pas la résurgence de toutes mes amours tristement échoués. Mon amour pour vous est un amour simple, un amour épuré, dépouillé, un amour débarrassé de toute idée arithmétisée. Mon amour pour vous est un amour qui donne sans attendre un retour. Mon amour pour vous, oui, est un amour d'enfant. Un petit enfant.
Bravo. Merci, merci. À toi, Nico.
On passe à un morceau de ton disque.
Ouais. Oui.
Ma soif d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif de vivre. Ma soif d'amour n'a de comparable que toutes mes privations et toutes mes déceptions d'amour. Ma soif d'amour n'a de comparable que les complaintes poignantes d'un enfant à la gorge verrouillée face à l'indifférence d'une mère impitoyable. Ma soif d'amour se veut la soif d'un père, longtemps recherché par un enfant délaissé à la quête de sa véritable identité. Ma soif d'amour est à la mesure du souvenir de ces hommes et femmes auxquels on a pu attacher son cœur et que la nature un jour, brusquement, injustement, a retiré de la terre. Ma soif d'amour est l'appel d'un condamné, manifestement innocent, dans une prison indécente, isolé du monde, oublié des siens, en proie à son terrible, terrible, oh, terrible destin. Ma soif d'amour n'a de comparable que la soif de vie d'un malade, accablé par une maladie tenace, rongé par des souffrances atroces et conscient que de la vie sur terre, il n'y a plus rien, mais alors, rien à attendre. Ma soif d'amour n'a de comparable que les larmes incessantes d'une femme en pleurs, abandonnée par un amour qu'elle croyait sien. Ma fort d'amour est un cri ardent, un cri strident, un cri poignant d'une peine si dense. Ma soif d'amour n'a de comparable que ma soif d'appartenir à un monde d'amour. Je voudrais pouvoir aimer en dépit de mes égoïsmes irrités. Je voudrais pouvoir aimer malgré toutes mes souffrances en amour rencontré. Je voudrais pouvoir aimer même ceux qui ne m'ont jamais, jamais aimé. Je voudrais pouvoir dire à temps, à vous toutes et tout ce que j'aime, que mon amour pour vous est au-delà de toute expression, que mon amour pour vous n'est pas l'étalage de mes hypocrisies refoulées, mon amour pour vous n'est pas la conjugaison de mes frustrations endurées, mon amour pour vous n'est pas la résurgence de toutes mes amours tristement échouées. Mon amour pour vous est un amour simple, un amour épuré, dépouillé, un amour débarrassé de toute idée arithmétisée. Mon amour pour vous est un amour qui donne sans attendre un retour. Mon amour pour vous, oui, est un amour d'enfant. Un petit enfant. Petit enfant.
C'est marrant d'entendre plusieurs fois le même texte de différentes façons, une fois à voix nue, une fois avec l'accompagnement. Et la première version était en langue...
Court.
Mais attends, j'ai un doute parce que je suis allé regarder sur Wikipédia. Il y a combien de langues au Cameroun ?
Il y a plus de 230 langues. Il y en a plusieurs. Ouais. Cameroun est un terreau dans lequel on trouve une multitude de langues locales.
Encore une fois, comment tu as dit ?
Bakoko, le Bakoko.
Le Bakoko.
Oui, ma langue maternelle. Mais que je parle de moins en moins bien, parce que ça fait longtemps que je ne la parle presque plus, du fait de mon exil. Enfin, du fait de ma présence à l'étranger. Pas exil, je dirais présence à l'étranger.
Comment on dit amour dans cette langue ?
Iding. Iding. Iding, c'est ça. En Bakoko, pour dire amour, on dit Iding. Madingewa, je t'aime. Odingema, tu m'aimes.
Et c'est dans quelle langue que tu te retrouves à jouer davantage, jouer le plus sur les mots ou à te faire surprendre?
C'est davantage en français, pour la simple raison que le français est ma langue de tous les jours, depuis bien d'années, depuis que j'ai quitté mon village. J'ai quitté mon village il y a bien bien longtemps. Et depuis lors, je pratique au quotidien la langue française. C'est exceptionnellement que je pratique ma langue maternelle. Quand je rentre au Cameroun ou alors quand je rencontre quelqu'un ici à Paris qui vient de ma contrée et qui est très proche de moi.
Tiens, quand j'ai vu sur le disque « Ma soif d'amour », je me suis dit, de quoi est-ce qu'il va parler ? Est-ce qu'il va parler de l'amour d'une femme, de l'amour des petits oiseaux, etc. ? Et puis finalement... Ben non, c'est ce que tu nous as dit avec une poésie engagée, finalement.
Oui, absolument. Vous savez que le thème de l'amour était un thème qui a été abordé dans tous les angles, de tout temps, par les artistes de tous les bords. Il fallait donc, moi, en tant que poète un peu iconoclaste, trouver une façon tout à fait singulière pour moi d'aborder ce thème et de le rendre quand même, de faire de sorte qu'il soit toujours plaisant, que ce ne soit pas comme une sorte de répétition de ce que les gens ont déjà écouté. La raison pour laquelle je suis allé chercher, n'est-ce pas, c'est allé chercher au plus profond de moi et Dieu merci, l'inspiration fut là. Elle est toujours là d'ailleurs.
Ta poésie, c'est pour faire plaisir aux gens, les interroger, les remuer, les bousculer, leur faire naître quelque chose?
C'est tout ça à la fois. Mais c'est d'abord une expression du moi intérieur, comment dire ça, un désir profond de m'exprimer sur moi, de m'exprimer sur le monde et in fine de m'exprimer sur la vie. C'est la raison pour laquelle ma poésie aborde plusieurs thèmes de la vie qui est la nôtre, nous les humains.
Le poème qui t'a le plus remué, pas un des tiens, mais un de ceux où tu t'es dit « j'ai envie de faire comme lui ou elle ».
Aimé Césaire, Cahier d'un retour, un extrait d'Aimé Césaire, lorsqu'il dit que ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle trouve l'accablement opaque de sa droite. Patience. Heya pour ceux qui n'ont jamais rien inventé. Heya pour ceux qui n'ont jamais rien pleuré. Rien dompté, rien exploré. Mais il s'abandonne, saisi à l'essence de toute chose. Insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde. Véritablement, les fils aînés du monde. Voici donc au bout de ce petit matin ma prière virile, que je n'entende ni les rires ni les cris, mes yeux fixés sur cette ville que je prophétise belle. Donnez-moi la foi sauvage du sorcier, etc., etc. Mmh.
Ce texte, quand tu l'as pris la première fois ou quand tu le prends maintenant, tu le sens différemment? Tu mets ton vécu à toi dedans au fur et à mesure?
La première fois que j'ai écouté ce texte, de façon audio. C'était sur RFI et j'avais été fasciné, marqué quoi, par la beauté de ce texte-là et aussi le talent de celui qui le disait. Malheureusement, j'étais arrivé à la fin et je n'ai pas pu suivre tout. Et je pense qu'à partir de ce jour-là, j'ai voulu dire des poèmes moi-même et en écrire.
Mais un poème, on ne doit pas rentrer dedans tout de suite, si. Faut que ça, on peut le re-rentrer, redécouvrir plusieurs fois.
Bien sûr, bien sûr. Tout est relatif. Tout est relatif. Il n'y a pas de formule définitive en tout état de cause. Il n'y a pas de formule définitive par rapport à un poème. On peut, n'est-ce pas, au premier abord y rentrer. On peut aussi, à force de lecture, de relecture, n'est-ce pas, s'approprier le poème, le découvrir et l'intégrer, etc., etc.
Et dis-moi, la création du poème,
oui.
Elle est en langue maternelle ou en français?
Principalement, les poèmes que j'écris sont en français. Mais il y en a que j'écris aussi en langue maternelle. Mais ceux-là sont des poèmes très souvent chantés, pleurés.
Mmh.
Oui, mais la plupart des poèmes que j'écris, que j'édite, eux, ils sont en français. Les poèmes maintenant chantés, pleurés, je les compose en banque, je les enregistre en attendant le jour où je ferai un CD avec ces poèmes pleurés et chantés. Mais ils ne sont pas encore sur CD, ceux-là.
Est-ce que tu as une liste de poèmes à proposer pour lire aujourd'hui?
Oui. J'aimerais, par exemple, dire...
J'ai vu qu'il y a le cri de l'immigré.
Le cri de l'immigré, oui. Alors, s'il vous plaît, je veux le dire. Le cri de l'immigré, c'est la page 59, je vais le retrouver, qui est un excellent poème.
Page 59.
Oui. Alors, je vais l'entamer avec un chant pleuré. Doutou les mamimos, sore les mamimne, oui, doutou les mamim, gani sore les mamim pon. Doutou les mamimos, sore les mamimne, oui, doutou les mamim, gani sore, mamim, mingaïbe mao, mingaïbe mawe, mingaïbe mawe amao, mingaïbe ma, mingaïbe pawe, mingaïbe mawe amawe. Ndutu eo, ndutu yamae, ndutu e, ndutu yamapon, ndutu yamae, ndutu yamao, ndutu yamao, ndutu yamae. Le cri de l'immigré. Donnez-moi la possibilité de rentrer dans mon pays si changé. Donnez-moi la possibilité de rentrer dans ce pays devenu le sombre dépotoir des intelligences méticuleusement délitées. Donnez-moi la possibilité de retrouver mon identité dans un pays assumant sa modernité. Donnez-moi la possibilité d'activer le combat de mon peuple englué dans un présentisme arriéré. Donnez-moi la possibilité d'éveiller mon peuple si astucieusement ensorcelé par des voyous manifestement en activité. Donnez-moi la possibilité de susciter l'audacité dans ce pays à l'élite incroyablement réservée. Donnez-moi la force de dénoncer tous les lobbies faisant de l'usurpation et de la lapidation des biens du peuple leur terrain d'émancipation privilégié. Donnez-moi la possibilité d'interpeller tous ceux qui, par leur gestion, leur fausse vision, hypothèque durablement l'avenir de ce pays aux capacités pourtant si enviées. Donnez-moi la force d'interpeller avec vivacité tous les champions de la démocratie truquée, tous les champions de la prévarication systématisée, tous les champions de la répression programmée. Hololoé, 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 oi, hololoé, 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 Camerouno, hololoé, Camerouno, mais hololoé, Agabon, hololoé, la Togo, hololoé, Anigérini, hololoé, 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 tel est le cri de ma douleur, expression de tous nos malheurs. Car j'entends des pleurs, j'entends des cris, j'entends de lugubres sons de voix en agonie. J'entends le battement renouvelé des vagues de la Méditerranée sur des pirogues tourmentées. J'entends d'ici tous ces cris étouffés d'un désespoir finissant. J'entrevois des corps d'enfants, de femmes, de jeunes et de vieilles gens, loin des leurs. Cette fois, c'est sans l'heure, c'est leur dernière demeure. Qui se souviendra de Bouba? Qui se souviendra de Moussa, de Kéré-Kéré, de Folo-Folo, de Tata Sissi, de Sita Bibi? Qui comblera le désespoir de leurs enfants et parents laissés sur terre? Qui apaisera leur cœur? Qui essuiera leurs larmes? Qui leur contera ce drame? Au pied de la sépulture imaginaire de ces disparus en mer, la nature écrira avec des mots liminaires, mort pour la vie, mort en cherchant leur survie. Hey yo, pour tous ces malheureux, hey, pour nos adieux, hey ya, pour tous ces affamés et tous ces déshérités. Donnez-moi la force de dénoncer vertement les responsables et complices de ces malheurs, retranchés dans des châteaux et insensibles à nos mots. Donnez-moi la force de leur dire que leurs actions seront jugées et les coupables verront leur nom gravé au panthéon de l'infâme afin que nul n'oublie. Enlevez maintenant mes yeux pouvoir de voir. Enlevez maintenant ma conscience, puissance de s'émouvoir, car le spectacle qu'offrent nos sociétés délabrées aux yeux du monde n'est plus du domaine du supportable, du respectable. Organisation sociétale inadaptée, architecture inappropriée, écoles et hôpitaux délabrés, chômage normalisé, forêts saccagées, sous-sols dépouillés, routes défoncées, environnement pollué, jeunesse clochardisée, génie créatif enterré, intellectuel inconsidéré, patriote pourchassé. Voilà notre héritage. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que mon peuple, piégé par cette élite envoûtée, ne trouve refuge dans quelques pays mieux organisés? Comment voulez-vous que nous appartenions à la même humanité si vous ne voulez opposer votre fraternité face à tant d'adversités? Comment pouvez-vous rejeter ces femmes, enfants, jeunes et vieilles gens qui, n'ayant plus de choix, choisissent de mourir d'espoir plutôt que de désespoir? Comment pouvez-vous moralement accepter dans vos banques, constamment alimentées, des milliards systématiquement amassés par nos élites toujours dénoncées pendant que nos enfants affamés à vos portes sont farouchement pourchassés? Comment appartenir à la même humanité? Votre indifférence face à nos souffrances, votre silence face à tant de violences, sont-ils les preuves de votre solidarité partout proclamée? Mon peuple bâillonné, mon peuple humilié, mon peuple accablé, mon peuple acculé, mon peuple inconsolé, ne mérite-t-il pas plus d'humanité si nous appartenons tous à la même humanité? Mon peuple n'est-il pas votre peuple? Mon temps est venu. Il faut que j'y aille. Avec vous ou sans vous, quel sera mon sort? voici le reste, le chant des enfants de la terre, véritablement citoyens du monde, qui luttent pour une humanité toujours plus juste, une humanité toujours plus fraternelle.
Super. Très bien. Très très beau poème.
Merci. Mmh. Merci. Très engagé aussi.
Ouais.
Qui d'ailleurs qui est très actuel parce que vous savez que il y a de plus en plus de jeunes Africains qui meurent dans la mer, qui périssent dans le désert, qui atterrissent à Lampedusa, qui quittent l'Afrique, hein, du fait, n'est-ce pas, des conditions de vie devenues insupportables pour eux. Et j'avais écrit ce poème justement pour le rendre hommage à tous ces jeunes-là, tous nos enfants, nos frères, nos sœurs, qui, hélas, malheureusement, sont laissés à eux-mêmes et périssent, n'est-ce pas, dans des conditions parfois très, très dramatiques.
Et tu ne prends pas trop de risques par rapport à la sécurité policière du pays en rentrant, par exemple?
Jusqu'alors,
est-ce
non.
Est-ce qu'il y a une ouverture
Non, jusqu'alors, bon, il y a quand même
liberté d'expression.
Une certaine liberté d'expression chez nous. À partir du moment où on ne touche pas aux intérêts des uns et des autres, bon, là, je ne fais que parler d'un problème qui est connu par tout le monde. Je n'indexe personne, je ne fais pas des attaques ad hominem. Hein, donc...
Non, mais non. Par rapport à d'autres pays où on se fait arrêter pour un oui, pour un non.
Oui, en tout cas, pour l'instant, je suis libre, je suis devant vous. Hein. Je suis devant vous, voilà.
Où est-ce qu'on peut te voir sur Paris?
Oh, pour l'instant, je ne fais pas de spectacle à proprement parler, sauf quand je suis invité. Bon, c'est vrai que j'envisage de faire... une dédicace de mon nouvel ouvrage fin novembre, début décembre. Hein, je suis en train de chercher un lieu adéquat qui pourra, n'est-ce pas, nous accueillir mes amis et moi pour passer de très beaux moments de poésie.
Alors, à défaut, où trouver tes textes?
Mes textes, on les trouve sur Internet, sur Amazon, sur Google, mes vidéos sur YouTube, mon livre, comme j'ai dit, sur Amazon et chez Présence Africaine.
Pour toucher le maximum de personnes, tu as choisi cette forme d'expression, et je me dis, d'un autre côté, il y a des jeunes qui veulent s'exprimer, qui ne savent pas trop quoi dire, mais qui ont le rythme, le flow, etc. Est-ce que tu as déjà envisagé d'aller en voir et de dire, voilà, moi j'ai du texte, et putain, c'est du lourd?
Ah, j'avoue que non, mais j'aurais bien voulu faire dire mes textes par quelqu'un comme Grand Corps Malade qui a une plus grande visibilité et d'autres chanteurs et auteurs qui sont plus connus que moi, parce que je pense que quand même, mes textes peuvent parler à plus d'un.
Alain-Alfred Moutapam, la première fois où tu en as écrit un et où tu t'es dit, bah ouais, finalement... C'est pas mal ce que je fais.
Alors, c'est une histoire tout à fait singulière. La première fois que j'ai écrit un texte où je me suis dit que ce n'est pas mal, c'était confronté à d'énormes difficultés ici en France, et précisément à Paris. Et je ne savais quoi faire. J'étais confronté à moi-même. J'ai été bousculé au plus profond de moi. J'avais le choix, soit devenir SDF, moi-même, soit rentrer. Or, rentrer n'était pas envisagé ni envisageable. Donc, soit je devenais mendiant, ou alors je faisais de la poésie. Donc, j'ai pensé devenir mendiant. Je ne voyais pas devenir mendiant. Je me suis dit, donc...
Tu as quand même une formation de juriste aussi.
Oui, mais je ne trouvais pas de travail, justement, parce que je ne trouvais pas de travail. Je n'arrivais pas, j'avais terminé, entre guillemets, j'avais un statut d'étudiant, mais je n'arrivais pas à renouveler mes papiers parce que je n'avais pas assez d'argent. Il fallait, au niveau de la préfecture, montrer, apporter la preuve, n'est-ce pas, que je pouvais, n'est-ce pas, me prendre en charge pendant, n'est-ce pas, mes études. Or là, je ne pouvais pas, je n'avais pas d'argent. Donc, j'étais pratiquement en clandestinité. J'avais d'ailleurs peur de me faire arrêter. C'est ainsi donc que j'avais envisagé de commencer à tendre la main dans la rue, ce qui était difficile, ou alors commencer à dire des textes dans la rue, dans le métro, dans des restaurants. Et j'ai commencé dans des restaurants et très rapidement ça a donné. Le premier poème que j'ai écrit, que je vais dire, s'intitule « Seul au monde ». Seul au monde. Page 76.
C'est quelle page?
76. Depuis que mon entreprise m'a mise à la porte, avant qu'elle ne ferme ses portes, je suis seul au monde. Les histoires du boulot sont devenues comme le loto. De mes centaines de CV envoyés, rarement des réponses accusées. Des quelques messages réceptionnés, seulement des lots de désolé. Excédé de ma galère répétée, mon bailleur révolté m'a expulsé. Je suis SDF, je suis seul au monde. Qu'il est dur de vivre sans toi au-dessus de soi. Quelle misère d'être un homme sans chez soi et de toujours chercher sa voie. Voici que je traîne des haillons. Mes vêtements sont devenus moins que des torchons. Le ciel étoilé au-dessus de moi s'est assombri. La lumière de la lune s'en est aussi allée. Du fond de mon tréfonds, je l'ai observé. La nuit a envahi mon existence. Comment sortir de cette pénitence? Le destin aurait-il déjà rendu sa sentence? Mais qu'aurais-je donc fait au monde pour mériter pareille souffrance? Il est minuit. Minuit et demi. Le silence est revenu. La nuit est conçue. Sous quel pont vais-je me coucher? Mais comment me réfugier sous cet abri mal protégé? Homme sans voix, l'absence de choix a souvent été mon sort. Le froid est glacial, l'hiver paradoxal. J'ai froid, j'ai faim, j'ai honte, je suis malade, je n'ai plus de force, je suis perdu. Que sont devenus mes enfants, ma femme, mes projets, mes ambitions? Qu'est devenue ma vie? Tout est vraiment foutu. Chaque jour qui passe est un jour qui me dépasse si je ne trépasse. Je suis sans repère, je vais en enfer qui me tendra la main. Mes amis m'ont tourné le dos. Ma famille m'a abandonné. La société m'a condamné, Dieu. Dieu d'amour et de miséricorde. Dieu de grâce et d'allégresse. Dieu de pardon et d'infinie bonté. Que serait donc la cause de ce lourd héritage qui pèse sur mes frêles épaules et dont je ne puis me départir, qui me condamne à souffrir continuellement et à mourir? Je suis seul sur cette terre. Et je m'interroge, après moi, à qui sera-ce le tour? Voilà bien. Donc, poème que je dédie à tous les SDF, à qui j'envoie mes pensées d'amour, mes pensées d'affection, de courage. Tenez bon, et que le Créateur soit avec vous. Voilà.
Et le mec qui a écrit ça est devenu chercheur et prof?
Voilà. Enfin, était déjà d'une certaine façon, mais il traversait des moments difficiles. Il n'était pas encore professeur, bien sûr. Mais bon, il était déjà intéressé par toutes ces questions-là.
Il y a eu une rencontre qui t'a fait sortir
Oui, il y a eu des rencontres. Il y a eu des rencontres, des encouragements, des personnes qui ont lu mes poèmes, qui ont aimé et qui m'ont tenu la main. Voilà. Jusqu'à... Et il y a aussi la providence. Voyez-vous, la providence existe également. Oui.
Est-ce que tu es un peu croyant par rapport à la religion?
Oui. Enfin, par rapport à la religion...
Ou entièrement laïque?
Un peu plus laïque que religieux. Mais je crois que en chaque homme sommeille le divin. Comme dit l'adage, n'est-ce pas, le temple le plus sacré, n'est-ce pas, n'est ni à Rome, ni en Arabie Saoudite, ni nulle part ailleurs. Il est dans chaque humain, au plus profond de nous, il y a le temple le plus sacré. Il faut avoir l'oreille pour écouter cette voix-là, et ce temple-là qui est en nous, et je crois en cela. Donc, dans la vie de tous les jours, porter la parole juste, porter l'action juste, porter la pensée juste, je pense que c'est ça le commencement de toute croyance.
Et comment tu es perçu donc par les groupements islamo?
Pouvez-vous reprendre? J'ai pas compris la question.
Comment tu es perçu par les minorités musulmanes, par exemple au Cameroun?
Non, j'ai pas de problème avec eux. Chacun est dans son couloir. Chacun, puisqu'à partir du moment où je ne m'attaque pas à eux, je pense qu'il y a une question de liberté d'expression, liberté religieuse également.
Tu peux t'adresser à eux également.
Mais bien sûr, à tout le monde. Je pense qu'en matière religieuse, d'ailleurs, l'Afrique nous donne au monde entier un exemple extraordinaire. Vous savez que dans les traditions spirituelles africaines, il n'y a jamais eu de sang coulé. On n'a jamais tué un humain depuis que l'Afrique existe, du fait de ses croyances. Je ne parle pas de l'Afrique nouvelle avec des religions importées. Mm. Je parle des traditions spirituelles africaines. Lorsque tu ne crois pas à nos traditions, il y a une cérémonie, tu dis que non, toi tu ne crois pas, tu ne veux pas. C'est ton problème. Jamais même une remontrance. Mm. Parce qu'on estime que bon, tu es avec ton divin, c'est ton problème avec lui. Donc non, je n'ai pas de problème avec qui que ce soit. Je pense que chacun a sa place et que chaque religion d'ailleurs est à sa place. Mmh. Voilà, c'est une question de, d'après moi, une question de niveau de conscience. Il y en a qui sont à la CIL, il y en a qui sont au CP, il y en a qui sont à l'université. Mais à chacun en fonction de son niveau de conscience. Simplement.
Et dans les milieux scolaires, est-ce que tu as des entrées?
Oui, puisque je suis moi-même enseignant dans les milieux scolaires.
Mais est-ce que tu es invité à lire tes poèmes?
Parfois, oui. Parfois,
dans les lycées, dans les facultés.
En tant que professeur moi-même de lycée et collège, je n'ai pas assez de temps pour aller faire de la poésie ailleurs. Mais je le fais déjà là où j'interviens, avec mes propres élèves, qui se régalent.
Très bien.
Tout le temps.
Mm. Oui, il y en a qui t'ont dit, « Monsieur, c'est vrai que t'écris ?»
Oui, ils sont contents de découvrir que j'écris et de me parler à leurs parents, de dire « Ah, mon autre prof a écrit un nouveau livre, voilà, voilà. »
Et il y en a qui sont venus te voir en disant « Monsieur, j'écris. »
Oui, il y en a qui sont venus me dire et que j'ai encouragé. Surtout ne pas arrêter, continuer. Que j'étais flatté d'ailleurs, honoré de savoir que certains de mes élèves écrivent également, qui sont habités, n'est-ce pas, par cette muse-là.
Oui. Mais il y en a qui peuvent écrire des saloperies, non ?
C'est toujours l'écriture. L'essentiel, c'est de s'exprimer. Maintenant, à partir du moment où ça ne fait pas du mal à autrui, et à eux-mêmes non plus, voilà.
On écoute un autre titre de toi ?
Allez, bien sûr.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater. Le temps est venu de voir et de constater que mes voisins, jeunes diplômés ambitieux, sont devenus des chômeurs séditieux.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que ma sœur, femme cultivée, travailleuse acharnée, est toujours sans activité.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que mon jeune frère, mineur, aux apparences majeures, est un affairiste aux activités très, très douteuses.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que mes cousins, enfants mineurs délaissent l'école avant l'heure. Ne sont-ils pas dans le leur?
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que les jeunes de mon quartier sont de perpétuelles victimes de préjugés dépassés.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que cette jeunesse des quartiers est une jeunesse otagée, délaissée, enfoncée et défoncée.
Le temps est venu.
Le temps est venu de voir et de constater que seule la police, la justice et la prison leur sont réservées. Ce sont leurs seuls alliés.
Le temps est venu.
Le temps est venu pour vous, jeunes clochardisés, de ne point désespéré.
Le temps est venu.
Le temps est venu de ressasser vos privations amassées et de faire d'elles vos motivations exacerbées.
Le temps est venu.
Le temps est venu d'apaiser vos haines entassées et d'unir vos forces dispersées. Le temps est venu de penser et d'organiser vos revendications appropriées avant de les étaler sur le terrain d'une république nouvelle.
Le temps est venu.
Le temps est venu de regarder dans votre histoire et de réaliser que sans action de votre part, il n'y a point d'espoir venant du mouroir.
Le temps est venu.
Le temps est venu de toujours vous instruire, de toujours vous construire et d'opposer à ceux qui vous traitent de négraille, d'arabaille et parfois de bovaille vos compétences rarement sollicitées.
Le temps est venu.
Le temps est venu de cesser de casser, de cesser de brûler, de cesser de nuire, de cesser de détruire, mais de commencer à construire. Faites partie des meilleurs, car je ne coûterai plus vos pleurs, quelles que soient mes douleurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Le temps est venu.
Le temps est venu pour vous, jeunes des quartiers, d'entrer dans la catégorie des incontestés par vos réalisations partout recherchées.
Le temps est venu.
Le temps est venu de participer au combat de la République avec les enfants de la République.
Le temps est venu.
Le temps est venu de ne plus s'isoler à l'écart de la République, mais de faire partie de la République.
Le temps est venu.
Le temps est venu d'exister ensemble, de se projeter ensemble, de bâtir ensemble, de gagner ensemble, et parfois, puis de pleurer. Oui, pleurer ensemble.
Le temps est venu.
Le temps est venu. Le temps est bienvenu pour la République de penser à ses enfants délaissés et de faire d'eux des citoyens réalisés. Vous avez besoin qu'on vous tende la main, mais sachez que votre destin reste entre vos propres mains.
Radio Libertaire 89,4 MHz, j'ai une petite proposition. Si on trace sur la carte du monde un triangle dont un sommet est Paris et un sommet est Yaoundé au Cameroun, le troisième sommet se retrouve au Sénégal, ce qui prouve que l'Afrique est assez grand. Et au Sénégal, ben, il y a Birago Diop, et là, ben, on a un texte de Birago Diop lu par Evelyne.
Les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui gémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent. Les buissons en sanglots. C'est le souffle des ancêtres morts qui ne sont pas partis, qui ne sont pas sous la terre, qui ne sont pas morts. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans le rocher qui geint. Ils sont dans la forêt. Ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Il redit chaque jour le grand pacte qui lie à la loi notre sort. Aux actes des souffles plus forts, le sort de nos morts qui ne sont pas morts, le lourd pacte qui nous lie à la vie, la lourde loi qui nous lie aux actes, des souffles qui se meurent dans le lit et sur les rives du fleuve, des souffles qui se meuvent dans le rocher qui geint et dans l'herbe qui pleure, des souffles qui demeure dans l'ombre qui s'éclaire et s'épaissit, dans l'arbre qui frémit, dans le bois qui gémit, et dans l'eau qui coule et dans l'eau qui dort. Des souffles plus forts qui ont pris le souffle des morts qui ne sont pas morts, des morts qui ne sont pas partis, des morts qui ne sont plus sous la terre. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix de feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Un poème de Birago Diop.
Et voilà, ça c'était le petit cadeau d'Evelyne. D'ici la fin de l'émission, on aura aussi le cadeau de Jean-Marie. Et Evelyne en profite pour nous signaler que le 28 octobre, elle aura pour invité Jutka Herbstu. J'ai toujours du mal à dire son nom de scène. Popek, voilà, c'est ça. On recevra Popek le 28 octobre. Et puis je crois que dans une autre émission, elle a prévu d'inviter Rémi Carnoche, poète. Mais là, dans l'immédiat, je vous redonne les micros, moi et Alain Alfred de Moutapam.
Bon, je vais vous lire un des poèmes de notre ami Alfred Moutapam, qui s'appelle « Je suis ce que je ne suis ». Je suis la lumière qui brille. Je suis l'ombre qui oscille. Je suis le jour qui se lève. Je suis le soir qui rêve. Je suis le bien absolu. Je suis le mal combattu. Je suis le silence vivifiant. Je suis le bruit assourdissant. Je suis le sel de la terre. Je suis l'eau de la mer. Je suis le roi des rois. Je suis l'esclave du moi. Je suis le riche vénéré. Je suis le pauvre humilié. Je suis le soleil, le vent. Je suis la nuit des temps. Je suis la liberté incarnée. Je suis l'esclave enchaîné. Je suis le ciel projeté. Je suis l'espoir retrouvé. Je suis la vie célébrée. Je suis l'homme réalisé. Je suis le Dieu ignoré. Je suis ce que je ne suis. Alfred Moutapam.
Voilà. Ça fait drôle d'entendre son texte dit par quelqu'un d'autre.
Oui, mais ça donne une autre inclinaison, une autre musicalité. C'est toujours intéressant, surtout quand c'est bien dit.
Il y a des fois où tu as eu des surprises de gens qui lisaient ton texte autrement, qui voyaient autre chose que ce que toi tu voulais mettre. Et après tout, tu n'es pas maître de ton texte. Une fois que tu l'as offert, il...
Absolument. Lorsqu'on a, pour les auteurs, lorsqu'on a fini, on a terminé son œuvre, on n'en est plus le total, on n'en est plus le maître. Maintenant, il y a des gens qui le lisent.
Puis la diversité.
Le ressentent autrement et parfois même avec beaucoup plus de force. Moi, j'ai un ami comme ça qui lit mes textes avec beaucoup de avec, en fait, lorsqu'il les lit, je suis très, très ému. Que j'aime le voir lire mes textes. En fait, il les vit avec une autre intensité.
Chacun avec son moi.
Absolument, absolument. Avec son émotion, sa sensibilité, etc.
Tu as des textes aussi pour faire rire ou sourire ou...
J'ai des textes sur l'amour également, surtout sur l'amour, sur la femme. J'ai des beaux textes également. Là, j'ai un devant moi qui a pour titre « Retrouvailles éternelles ».
Quelle page ?
Page 12. Je suis resté longtemps sans nouvelles, aucune lettre, aucun message, aucun signe. Malgré ma peine et mon fardeau, malgré mes plaintes et mes complaintes, malgré mon désarroi et mon chagrin, rien de ces présages n'a pu éteindre ma flamme. La solitude aurait pu aggraver mon désespoir, les nuages auraient pu teinter mes souvenirs, mais à aucun moment ta présence en moi ne s'est estompée. Sur les plages, toujours pour toi j'ai médité, sur les vagues, ton nom j'ai sculpté, comme un illuminé, je fus traité. Chaque jour de toi, je me suis remémoré, chaque matin pour toi, j'ai prié,
l'hymne des oiseaux, comme le vent des vergers, m'ont encouragé. À la lumière des étoiles, je me suis réconforté. Me voici devant la mer, me voici face au vent. Je ressens en moi le souffle des alizés. Il monte en moi le sentiment de toujours t'aimer. Je te vois marcher, je te vois arriver. Tu n'es plus simple promesse. Comme une déesse, tu es là. J'ai décidé que je te nommerai Pharaon. J'ai décidé que je te nommerai Aurore. J'ai décidé que je te nommerai Printemps. J'ai décidé que je te nommerai de tous les noms, de toutes les constellations qui éveillent en moi le bonheur et la félicité. Car telle est ta destinée. C'était écrit depuis l'aube des temps. Tu as clos l'épisode sombre de mes nuits. Tu as effacé le présage des oracles. Tu as essuyé mes larmes pesantes. Tu as rétabli l'amour, la joie et la vie, là où il n'y avait plus que tristesse et lamentation. Tu y es emblème. Tu y es symbole. Tu y es calice. Oh, élixir. À nous la vie, ici et maintenant. À nous les grâces infinies. À nous, l'éternité qui se renouvelle. Ô ma pharaon, tu es véritablement et définitivement pharaon.
Merci. Femme du rêve, dans ton costume naturel, je te trouve si exceptionnelle et le parfum de ton corps achève de te rendre sensationnelle. Ô femme, la nature a fait de toi le dépositaire des secrets de l'amour et de la vie, et de moi, ton admirateur de tous les instants. Les échos des montagnes et des mers témoignent de ta particularité. Voici que je parcours les terres. Voici que je défie le temps à la recherche de toi. Saurais-tu ignorer le rendez-vous de notre commune destinée? Tu es présente dans mes pensées, combien absente dans ma réalité. Femme de rêve, resteras-tu un rêve? Le jour de ta création fut plus qu'un jour de prédestination. Combien d'oracles t'ont-ils annoncé? Combien d'artistes t'ont-ils évoqué? Combien de tableaux t'ont-ils représenté? Que battent les tam-tams et les tambours rituels? Que résonnent les calebasses cérémonielles? Que danse mon village référentiel? Car je suis un homme heureux. Voici venue ma dulcinée. Voici venue cette femme longtemps recherchée. Tes baisers sont les plus appréciés, tes yeux le miroir de la beauté. Tu es la flamme qui ravive mon existence, le cours d'eau qui abreuve l'agneau au temps de l'été. Délice de mes délices, la conscience de ta présence comble tous mes manques. Que la nature te soit favorable tout au long de ton précaire séjour sur cette terre, que pour toi je prophétise le ciel. Toi, femme que j'aime et aimerai au-delà de mon temps, en attendant nos retrouvailles dans l'autre monde pour continuer et perpétuer notre amour que je veux, oui, éternel. Merci.
Alain Alfred, tu écris, tu dis, tu pleures, tu chantes, mais tu joues pas d'instrument quand même là-dessus, c'est pas toi.
Non, pas encore. C'est mon grand rêve, jouer un instrument. J'espère qu'avant que mon âme ne décide de quitter mon corps physique, que j'aurai l'occasion et l'opportunité d'apprendre à jouer un instrument. C'est mon grand rêve.
Mais alors là, c'est qui avec toi et c'est quoi cet objet que j'ai entre les mains?
Non, c'est un disque que j'ai sorti avec des amis que j'ai rencontrés lors d'une soirée de poésie, et ils s'étaient proposés, n'est-ce pas, de m'enregistrer. Et voilà, donc c'est sorti il y a quelques temps déjà, mais c'est un disque qui reste d'actualité, qui est toujours beau à écouter, hein, à découvrir, à redécouvrir.
Je te demandais tout à l'heure le premier texte que tu as écrit. Le prochain que tu écriras est qui t'arabuste depuis un certain temps, que, où tu trouves pas le bon mot, la bonne phrase, l'image.
Alors, je ne peux le dire comme ça, parce que mes textes sont souvent le fruit des rencontres. Des rencontres, par exemple, également, le résultat de mes écoutes également, parce que lorsque je vais peut-être à un concert, je suis un autre artiste, il y a un thème qu'il peut développer, ou alors un titre, ou alors un mot qu'il peut dire, qui m'inspire, et à partir de ce mot-là, voilà, je commence à réfléchir, je commence à, comment dire ça, à décliner mon poème, petit à petit, jusqu'à ce qu'il soit, comment dire, jusqu'à ce qu'il me plaise, et qu'il soit susceptible d'être proposé au public.
Il y a un mot que tu n'arriverais jamais à mettre dans un poème parce qu'il ne te plaît pas?
Non. Enfin, jusqu'à présent, cela ne m'est pas encore arrivé.
Je sais que tu as déjà eu l'occasion d'aller à l'UNESCO, à l'Assemblée nationale, à différents endroits comme ça. Imaginons que là, on ait la possibilité de bidouiller un truc et on s'adresse, je ne sais pas, on pirate une télé, on s'adresse à 2 millions de gens en même temps. 2 millions d'un coup, c'est génial de pouvoir toucher 2 millions de personnes. Tu leur dis quoi comme texte? Tu leur fais quoi?
Ma différence. Je vais faire le texte Ma différence, que qu'il y a déjà là, je peux le... Il est déjà enregistré, mais je peux le redire moi-même. Ma différence. Page 97.
Ah bah tiens, je suis dessus.
Voilà. Ma différence. Ma différence peut-elle être la cause de ton indifférence? Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpellé ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence? Ma différence n'est-elle pas le déterminant de ta référence? Pourquoi? Pourquoi me livrer à la potence du simple fait de ma différence? Pourquoi ma différence doit-elle influer sur le destin de ma descendance? La conjugaison de nos différences ne doit-elle pas être érigée en exigence dans un monde de transcendance? Nos différences, parce qu'elles ont un sens, seront nos références si elles se traduisent en puissance. Imagine-toi un monde totalement noir. Imagine-toi un monde totalement blanc, rouge, jaune. Imagine-toi un monde totalement riche, un monde totalement pauvre. Imagine-toi un monde totalement savant et un monde entièrement ignorant. Imagine-toi un monde totalement uniforme où chacun aurait ta forme. Imagine-toi ce monde. Ce ne serait pas le monde. Ma différence, comme ta différence, comme sa différence, participe de la beauté du monde. Ma différence, comme ta différence, comme sa différence, participe du sel du monde, du fondement même du monde, de l'essence du monde, je vais dire de la vie. La vie du monde. Voilà ce que je peux proposer à mon public, à ces 2 millions, n'est-ce pas, d'auditeurs, des spectateurs, et je suis sûr qu'ils apprécieraient.
C'est marrant que tu me parles de différence, parce que, bon, allez, collègue, moi je suis prof de maths, et il y a un moment en début d'année où je me retrouve à parler aux élèves de la notion de différence, et je leur dis effectivement que les êtres humains sont différents. Alors quand je te regarde, effectivement, toi et moi, on n'a rien sur le caillou, on a des lunettes, on se ressemble beaucoup finalement, mais les êtres humains sont différents, et ça, c'est normal. Simplement, il y a des gens qui tendent à sous-entendre que différent, ça veut dire qu'il y a une relation d'ordre. Et que quand deux personnes sont différentes, il y en a une qui est forcément au-dessus de l'autre, alors que mathématiquement, il n'y a aucune raison. Ça vient d'un article de Denis Gage que j'avais lu, et où la tendance est quand même, à partir du moment où on dit, tu vois, toi et moi, nous sommes différents, en général, celui qui explique cette différence aux autres, il a tendance à leur dire, et toi, ben, c'est pas de chance, t'es plutôt l'inférieur et moi je suis plutôt le supérieur. Mais une fois qu'on accepte cette idée, on se ressemble pas forcément, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou au-dessous, Là, on a fait un gros progrès, je trouve. Mais...
Il faut dire que la notion de différence est liée à la nature même de la vie. Dans toutes les espèces vivantes, il y a la différence. Quand vous regardez l'espèce animale, il y a des différences. Vous regardez même les lions, ils ne sont pas tous pareils. Ils sont différents. Mais n'empêche que ça reste des lions. Vous regardez les chats, il y a des noirs, des jaunes, etc. Mais il reste des chats. Il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de hiérarchisation. Au niveau des humains, c'est pareil. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, etc., etc. En principe, non, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y avait pas de hiérarchisation. La hiérarchisation est née avec la volonté des hommes à un certain moment de l'histoire de l'humanité, et précisément à partir de l'instauration de l'esclavage. Et après l'instauration de l'esclavage, il y a un certain nombre d'intellectuels qui ont été mis à l'œuvre, n'est-ce pas, pour essayer d'expliquer, de justifier en fait ce crime contre l'humanité. C'est à partir de là que naît donc la notion de hiérarchisation, n'est-ce pas, au niveau des humains, savoir que la race blanche est la race supérieure et la race noire est la race inférieure. Mais quand vous prenez par exemple des enfants de différentes couleurs, blanc, noir, jaune, toutes les couleurs, vous les mettez ensemble, vous ne verrez jamais des races du racisme entre eux. Aucun. Mais en fait, ça nous montre quoi ? L'enseignement, c'est que le racisme est enseigné. Là, c'est la société qui divulgue le racisme. Parfois, de façon même inconsciente. Voyez-vous, lorsque, par exemple, dans certaines chaînes en Occident, lorsqu'on veut, par exemple, montrer l'Afrique, et que ce soit toujours en termes négatifs, dans l'inconscient collectif des gens, on se rend compte, mais attends, quand on montre les villes bâtardes, la saleté, la pauvreté, la faim, le chômage, lorsqu'on ne montre pas ce qui est beau, ce qui valorise, comment voulez-vous ces gens-là? À un moment donné, lorsqu'ils voient des Africains, des Noirs, ils se disent que c'est comme ça qu'ils sont. En revanche, lorsqu'on montre le côté de leur beauté, leur esthétique, leur génie, etc., ça change les mentalités. Donc, pour ne pas conclure sur cette question, la question du racisme est une question d'actualité depuis quelques siècles déjà. Surtout, l'homme noir en a souffert. Et c'est d'autant plus que l'histoire de l'homme noir et précisément de l'Africain a été falsifiée parce que nous sommes le seul peuple au monde dont l'histoire n'est pas écrite par eux-mêmes, par les Africains même. L'histoire africaine n'est pas écrite par les Africains, plutôt par d'autres peuples. Les Européens ont écrit leur propre histoire. Un Chinois ne viendrait pas. L'histoire européenne, française, allemande ne peut pas être écrite par un Japonais, un Chinois. En revanche, l'histoire africaine était écrite par d'autres et elle était totalement falsifiée. Échec Anta Diop nous apprend que le plus grand crime contre l'histoire et contre la science est la falsification de notre histoire. Combien de personnes dans ce monde savent que les théorèmes de Thalès de Pythagore ont existé plus de 1000 ans avant leur naissance et que leurs auteurs étaient des Noirs? Combien ne savent pas? Plus de 1000 ans avant leur naissance, ils n'ont que recopié. Combien d'Européens savent que Thalès, Pythagore ont eu pour maître des Noirs en Afrique et que Pythagore a passé près de 20 ans avant d'entrer, n'est-ce pas, dans les Adidas pour avoir accès à la connaissance. Combien le savent-ils? Combien savent-ils que les pyramides, que l'écriture, lorsqu'on dit que les Africains n'ont pas d'écriture, que c'est faux, que la culture africaine est essentiellement orale, que c'est faux, que l'écriture est née précisément en Afrique, que les médou-nétieurs, cette langue sacrée, écriture sacrée, sont nés en Afrique, que même sont nés en Afrique, et que, comment on appelle encore ça, les papyrus, papier, non papyrus, ça vient de là, de l'Afrique noire. Et que l'Égypte antique dont invente aujourd'hui les qualités, c'est une éthique essentiellement nègre. Que le colloque de Dakar, le colloque du Caire de 1974, qui a réuni tous les experts sur l'égyptologie, tous les experts du monde, a été formel là-dessus. Aujourd'hui, il y a encore des débats, mais des débats inutiles. L'UNESCO organise en 1974 un débat sur l'origine, la vraie origine, n'est-ce pas, des Égyptiens anciens. Qui étaient les Égyptiens anciens? Et l'UNESCO est clair, c'était des Noirs. Qui le sait aujourd'hui? Donc tout ça a été falsifié, etc., etc. Et c'est tout ça qui nourrit le racisme. Et lorsque la vérité sera sue, je pense que le racisme disparaîtra de lui-même, hein, je pense. Voilà.
sans perdre de vue la devise liberté, égalité, fraternité.
Fraternité, surtout fraternité. Moi, je pense qu'à partir du moment où la vérité est dite à tout le monde, il n'y aura plus le racisme mourra de lui-même. Or, en ce moment, il y a comme ce que Cheikh Anta Diop appelle la conspiration du silence. C'est-à-dire que tout ce qui est du relais, par exemple, des Noirs d'Afrique, tout le génie noir africain, on essaye de cacher le maximum possible. Or, dès que tout ça sera su par tout le monde, il n'y aura plus de raison qu'il y ait des races qui prétendent être supérieures à d'autres. Parce que tout le monde, Césaire le dit si bien, aucun peuple, aucune race n'a le monopole de la beauté, de la force et de l'intelligence. Il est de place pour tous, n'est-ce pas, au soleil, tout le monde. Yeah. C'est ça. C'est une question de fraternité. Nous devons tous nous battre. Et nous, en tant que poètes, nous devons contribuer à l'édification, à la sédimentation, à la construction d'un nouveau monde où règne la solidarité, la paix, la vérité, la justice. C'est ce que nous appelons le monde de la Mahat. Vérité, justice, équilibre de tout et du tout.
Si je puis me permettre, moi j'en ai rien à foutre de savoir si celui qui a découvert que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des autres côtés, il était grec, d'Afrique, de Chine ou autre. Ce qui m'importe de savoir, c'est que quelqu'un, un jour, un de nos ancêtres, a eu l'idée de voir ça et de se dire, tiens, si je mesurais ce truc-là et celui-là, j'obtiendrais ça. J'allais dire un mec, mais c'est même pas sûr, tiens. Qu'un mec ou une nana ait pensé à ça un jour, je me dis, putain, mais c'est incroyable, l'être humain.
Oui, mais vous savez, il est important d'avoir des références. Tout peuple a besoin de références. Et toute jeunesse a besoin d'avoir des références. Nous, par exemple, la jeunesse africaine grandit, malheureusement, avec l'idée que leurs anciens, leurs aïeux n'ont pas participé, n'est-ce pas, à la science, à bâtir le monde, n'ont participé à rien, qui n'ont rien foutu au monde, dans ce monde, qui n'ont pas participé, n'est-ce pas, à la construction du monde moderne, du génie moderne, ce qui est faux. Et ça fait qu'il y a beaucoup qui entrent dans la vie, dans le monde, avec des préjugés d'infériorité. Et donc c'est important, en fait, de savoir que celui, tel qui a fait ceci, c'était mon ancêtre, et ça te donne de la force de continuer, vous comprenez? Non, c'est pas vrai quand vous dites qu'on ne veut pas savoir qui c'est. Non, c'est important de savoir que dans l'histoire, par exemple, de la France, de connaître les grands qui ont marqué l'histoire de la France. Par exemple, de Gaulle, on sait que ce fut un grand homme politique qui a libéré la France. Qui. C'est important. C'est une référence, n'est-ce pas? Et dans l'histoire, il y a de très grands hommes d'histoire en France, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est ça. Et ça, c'est important pour la jeunesse française. Et dans tous les peuples, il y a comme ça des monuments, des personnes, des ressources. Et il faut se référer à eux. C'est important pour la jeunesse, je pense.
Et tiens, pour en revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure sur les enfants au départ, ils n'ont pas de racisme en eux. J'ai une belle anecdote. C'est mon neveu qui doit avoir maintenant, qui doit approcher de la cinquantaine, mais quand il était gamin, il avait voulu expliquer à sa mère qu'il y avait le père d'un tel, et il n'arrivait pas à expliquer à sa mère qui était le père d'un tel. Il dit, mais tu sais, c'est le type qui vient, il a une voiture de telle couleur, il habite à tel endroit et tout. Et au bout d'un moment, sa mère dit, c'est celui qui est noir. Et mon neveu la regarde, il dit, je sais pas. Le type était noir, et pour mon neveu, oui, c'était un détail, mais voilà. Beaucoup plus anecdotique que le fait qu'il avait telle ou telle voiture, ou qu'il avait tel bouquin, ou telle autre chose.
Pour les enfants, vraiment, la couleur de la peau n'existe pas. Moi, je le vois en tant qu'enseignant, je rencontre, surtout que j'ai enseigné depuis la maternelle, je vois mes enfants de maternelle, vraiment, ma couleur de peau ne savent pas, quoi. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce qui les intéresse, c'est moi. Donc le racisme est une construction, est une création des humains, hélas.
Oui, donc finalement celui qui a inventé le théorème de Pythagore et celui qui a inventé le racisme, c'est peut-être la même personne, et dans un cas il est con. Hein.
Vous avez la responsabilité de vous dire.
Allez, j'allais oublier, on a le petit cadeau de Jean-Marie quand même, puisqu'il nous reste 11 minutes d'émission avant l'arrivée de Bulle Noire, magazine du Polar.
La rivière. La rivière. Tout simplement de l'eau. Une énorme masse d'eau. Et cette eau coulait, abondante, avec une parfaite indifférence. Malgré son cours ininterrompu, elle restait au même endroit. Malgré cette immobilité, à chaque instant, elle se renouvelait. Malgré un tel renouvellement, elle était la poursuite du passé. Malgré cette continuation du passé, elle se prolongeait dans l'avenir. Ainsi réunis, le passé, l'avenir n'était plus qu'un. Le présent. Malgré son indifférence, il souffrait. Malgré sa souffrance, il restait indifférent. Et s'il mourait avec indifférence, il renaissait tout en mourant. La rivière coule, exempte des désordres du cœur. Avec un corps parfaitement libre, comme le temps dans l'éternité. La rivière coule, exempte du fardeau du corps. Avec un cœur parfaitement pur, comme l'éternité dans le temps. La rivière coule, réalité faite de... néant, qui n'est ni l'esprit, ni la chair. Coussin.
Et voilà, ça c'était le petit cadeau de Jean-Marie avec, sauf erreur, aux instruments derrière, ça devait être Michel Seul et ou Tim Laser. Radio Libertaire, il est 16h52, bah, on va voir ce qu'on a pour conclure l'émission, des textes encore.
Il y a Rendez-moi mon pays.
Oui, tu veux les lire?
Je peux les lire?
Oui, bien sûr.
Alors, Rendez-moi mon pays. Rendez-moi mon pays de paix et de joie articulée. Rendez-moi mon pays de grandeur et de splendeur, jadis célébré. Rendez-moi mon pays réduit en champ de faim, de chômage, de guerre et de ruines innommées. Mon peuple hurle, mon peuple pleure, mon peuple meurt. Les militaires tombent, les civils agonisent, les jeunes s'exilent. Le cauchemar a gagné tous les abris. Le cauchemar a conquis tous les esprits. Que faites-vous? Votre silence est devenu si assourdissant. Votre indifférence tonitruante, votre humanité questionnable. Oui, vous nous aviez promis la paix, vous nous aviez offert la guerre, vous nous aviez promis la démocratie, vous nous aviez imposé la démocrature, l'imposture, la ruse, la corruption et le chaos. Partez, partez, car vous avez trahi votre mission. Partez, car vous avez déshonoré votre noble fonction. Partez, car vous avez occasionné tant de morts inutiles et emprisonné nombre d'innocents. Partez, car vous êtes cynique. Partez, car vous êtes machiavélique. Partez, car vous êtes anachronique. Partez. Et rendez-moi mon pays maintenant. Partez avec vos armes et vos soldats. Partez avec vos richesses accumulées sur l'autel de nos privations et de nos morts sans sépulture. Partez avec votre démocratie, votre imposture qui ont importé tant de vies
et mis à nu
votre incompétence et insouciance. Partez. Partez et rendez-moi mon pays définitivement, car je sais qu'il régénérera, que de nouveau il brillera
Sans vous, il rutilera, drapé de nouveaux rayons.
Oui, comme un jardin ardent de foi et d'unité.
Tous ses enfants, debout,
oui, fiers, comme un soleil,
chanteront, terre patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur.
Oui, notre gloire et notre vie.
À toi l'amour
et le grand bonheur.
Très bien.
Merci, merci. Fin de Libertaire.
Ma différence. Ma différence peut-elle être la cause de ton indifférence? Ma différence peut-elle être la cause de ta condescendance? Ma différence peut-elle justifier ton silence face à toutes mes souffrances? Ma différence a-t-elle jamais interpeller ta conscience au regard des violences dont je suis la perpétuelle destinance? Ma différence n'est-elle pas le miroir de ta différence? Ma différence n'est-elle pas le déterminant de ta référence? Pourquoi me livrer à la potence du simple fait de ma différence? Pourquoi ma différence doit-elle influer sur le destin de ma descendance? La conjugaison de nos différences ne doit-elle pas être érigée en exigence dans un monde de transcendance? Nos différences, parce qu'elles ont un sens, seront nos références si elles se traduisent en puissance. Imagine-toi un monde totalement noir. Imagine-toi un monde totalement blanc. Jaune, rouge. Imagine-toi un monde totalement riche, un monde totalement pauvre. Imagine-toi un monde totalement beau, un monde totalement laid. Imagine-toi un monde totalement savant et un autre entièrement ignorant. Imagine-toi un monde totalement uniforme où chacun aurait ta forme. Imagine-toi ce monde, ce ne serait pas le monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la richesse du monde. Ma différence, comme ta différence, participe de la beauté du monde, du sel du monde. Ma différence, comme ta différence, participe du fondement même du monde, de l'essence du monde, je veux dire de la vie du monde. Ma différence.
Radio Libertaire 89,4 MHz, dessous de scène magazine de créatures radiophoniques, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine, moins une heure et demie, avec une programmation. Je pense qu'il y aura Ariel, Elsa, pour nous livrer des textes. On aura des invités en la personne de Jérémy Bosson pour une soirée qui a lieu, organisée par La Cigale de Créteil, et qui aura lieu au Conservatoire Marcel Dadi le vendredi 13 octobre à 20h.
auteur, et puis par la suite, comme je vous l'ai dit, on aura d'autres invités, notamment ceux que je vous ai indiqués tout à l'heure, promis par Evelyne, Rémi Carnoche, et puis Popek, et puis, on aura un peu de tout. Et là, dans l'immédiat, sur l'antenne de Radio Libertaire, avec 12 secondes d'avance, c'est exceptionnel, c'est Bulle Noire, magazine du Polar, avec comme invité un palindrome, puisqu'il s'appelle Laval Alexandre.
T'as bien capté, Bulle Noire, sur Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de polar, sur Libertaire, Radio Libertaire.
De 17h à 19h,
baby,
ton ami Bob reçoit le gratin des auteurs. Du Libertaire.
T'as bien capté, Bulle Noire, du Libertaire, Radio Libertaire. On va parler de Paula, du Libertaire, Radio Libertaire.
Attention, c'est pas l'heure de 4h,
baby.
Faut pas te tromper, les flingues vont sortir des holsters. De calibre 44,
baby.
Mais bien sûr, tu es sur 89.4.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio Libertaire.
Radio
Libertaire. Radio Libertaire sur 89.4.
Bonjour à tous, et bien Bulle Noire en deux parties. La première avec Alexandre Laval, qui est avec nous dans ses studios. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs.
Alors Alexandre qui vient de publier son deuxième roman aux éditions de Passage.
Alors c'est le premier avec le Passage, mais c'est le deuxième en tant que romancier, oui.
Oui, le premier c'était un petit peu d'ailleurs sur le même genre, parce que là on va plonger quand même là avec ce roman-là sous la Régence.
Tout à fait.
Le précédent c'était quelle période que tu avais choisi ?
Alors c'était le 18e siècle, mais c'était la fin du 18e siècle et la Révolution. Là, on est à l'ouverture du 18e siècle, sous la Régence, en effet.
D'accord. Alors, avant de parler de ce roman, on va faire un petit point sur ton parcours.
Oui.
T'es d'accord, pourquoi faire ça, un point sur ton parcours. Comédien, alors j'ai vu d'ailleurs, tu fais plein de trucs, hein. T'es pas que comédien, tu dessines un petit peu, j'ai cru comprendre.
Oui.
Tu es metteur en scène.
Oui.
Évidemment, tu n'écris pas seulement des romans historiques, mais tu écris également des pièces.
J'ai commencé en effet par écrire du théâtre.
Bon, alors, t'es né à Versailles, c'est ça
Oui.
Aux environs de Versailles.
À Versailles.
T'es tout jeune, il ne faut pas donner ton âge.
si vous voulez.
Ben, vas-y, je te laisse le donner.
Voilà, né en 89, donc faites le calcul.
Un tout jeune garçon. Bon, le jeune Alexandre Laval a commencé par faire de l'histoire de l'art, c'est ça?
Oui.
Bon,
oui, oui.
Mais pendant que tu faisais tes études d'histoire de l'art, ou même avant d'ailleurs, quand tu étais un jeune écolier puis lycéen, est-ce que tu t'intéressais au théâtre? Est-ce que tu participais aux pièces théâtrales de l'école? Ou est-ce que tu t'es inscrit dans une école?
Oui, oui, j'ai eu le virus du théâtre assez jeune à l'école, en allant voir des pièces à la Comédie-Française. Et puis, j'ai des souvenirs de scènes de Molière.